Bonjour et merci d'être là, tout oui, pour écouter un nouvel épisode de Du Poil Sous les Bras. Un épisode dans lequel on ne va pas parler de la race, mais on aurait pu, car mon invité du jour a aussi écrit un petit livre sur la notion de race. Et ça m'a donné envie de vous citer Evelyne Heyer, qui est professeure d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Evelyne Heyer que j'inviterai un jour dans Du Poil Sous les Bras. Et dans La vie secrète des gènes, elle écrit ceci. La génétique réfute la notion de race humaine. L'apparence des humains ne dit absolument rien de leur comportement, leur intelligence ou de tout ce qui les définit par ailleurs. Et elle explique entre autres dans ce livre que nous sommes, nous les humains et les humaines, tous et toutes identiques à 99,9%. Et que donc, la notion de race n'existe scientifiquement que pour les espèces qui possèdent des sous-groupes marqués génétiquement, comme chez le chien. Mais le concept de race est donc complètement inadapté à la population humaine. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de race, mais comme on va parler de nation et que dans la tête de certains, tout est un peu confus, eh bien, des petits points techniques et scientifiques ne sont jamais superflus. Allez, allons voir à qui nous avons affaire aujourd'hui.
Alors, les gens comme moi, ils se posent beaucoup de questions. Ils se disent beaucoup, tiens, est-ce que j'ai réussi à être assez juste dans ce que j'ai rendu ? Est-ce que je suis pas en train de léser quelqu'un ? Est-ce que je suis pas en train d'affirmer les choses de manière sans prendre en compte un point de vue. Alors c'est un peu vain parce qu'il y a toujours des choses qu'on rate et ça n'empêche pas après que je puisse en même temps défendre avec beaucoup de conviction les choses dans lesquelles je crois. Donc il y a peut-être une petite dissonance entre le ton avec le assez affirmatif avec lequel je peux parler et le fait que le moteur, ça reste le doute.
Et vous me connaissez, j'aime les gens qui doutent, les gens qui acceptent leur dissonance, parce qu'on en a tous et toutes. On n'est parfois pas très raccord avec ce qu'on ressent. Moi, en tout cas, ça m'arrive souvent d'être dissonante, parfois même un peu dissociée. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la nation, avec un grand N. Alors, une grande idée, la nation, peut-être ou peut-être pas. On va voir ça tout de suite dans Du Poil Sous les Bras.
Bonjour, je suis Sarah Mazouz, je suis sociologue au CNRS et je travaille sur deux choses qui se croisent, mais qui ne se croisent pas nécessairement, la question raciale et la question de la nationalité. Et donc, je travaille, j'ai essayé de voir comment dans certaines politiques de nationalité, on avait encore ce qu'on appelle en sociologie les processus de racialisation, donc comment on produit des catégorisations qui placent les gens d'une manière raciale, même dans des contextes qui ne sont pas explicitement racistes. Et sur la racialisation, le point de départ de mes recherches, c'était les politiques de lutte contre les discriminations raciales et la manière dont ça avait été pensé ou pas pensé, en France à la fin des années 90, au début des années 2000. Et voilà, à partir de là, j'ai continué à tracer ce petit fil avec des moments où j'ai plus travaillé sur les politiques de nationalité, comme par exemple quand je suis aussi allée travailler sur la reconnaissance de la double nationalité en Allemagne, ou comme en ce moment où je travaille plus sur la question raciale en l'ouvrant à d'autres questions qui ne sont pas celles de la nationalité, puisque je travaille sur la danse et sur le ballet de l'Opéra de Paris.
Et oui, vous avez peut-être entendu parler des enjeux autour des questions de racialisation à l'Opéra de Paris. Mais ce sera pour un autre jour, hein. Aujourd'hui on parle de la nation. Alors il y a des mots comme ça qui paraissent évidents, mais qui sont tout l'inverse. Des mots qu'on croit connaître ou comprendre sans jamais s'être vraiment posé la question de ce qu'ils signifient. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Anna Moza a créé cette collection reconnaissable à sa couverture noire et blanche intitulée « Le mot est faible », collection dans laquelle est publiée « Nation » de Sarah Mazouz. Alors « Nation », c'est pas du tout un terme qui reflète la même réalité pour tout le monde depuis la nuit des temps. Non, juridiquement, politiquement, communément, la nation n'est quasiment jamais la même pour tout le monde. Alors souvent, c'est synonyme de « peuple ». Ça, c'est plutôt logique, puisque le mot vient du latin « natio », qui désigne les petits d'une même portée, et donc, par extension aussi, des petits humains d'une même origine. Donc, dire que la nation, ce serait un groupe humain assez vaste, ça, pourquoi pas ? Mais certains ajoutent que la nation se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Donc là, déjà, on complique un peu. Et puis d'autres encore ajoutent que la nation, c'est une communauté humaine avec des traits communs, culturels ou ethniques. Des traits au nom desquels elle constitue une entité politique souveraine. Ah, alors la nation, ce serait une communauté politique, admettons. Mais la nation a-t-elle toujours un territoire défini? Y a-t-il une nation kurde, par exemple, ou une nation bretonne ou catalane? Y a-t-il des nations sans territoire et d'autres avec? Il y a des États-nations et d'autres nations sans État. Le Québec est une nation du Canada. Les dictionnaires ne donnent pas tous la même définition de nation, et même l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, n'accepte pas en son sein les nations, tout court. Faut être un État, sinon le pays n'est pas reconnu à l'ONU. C'est compliqué. Alors on pourrait se dire, bon, ben, c'est pas grave, passons. Mais non, parce que le sens des mots est important, surtout dans le cas de nation. Parce que même si, bon, nation, on s'en fout un peu, et ben derrière, il y a nationalité et nationalisme. Et là, on s'en fout pas. Alors, du poil sous les bras pour parler nation avec Sarah Mazouz, c'est parti.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Alors Sarah, pourquoi avoir voulu écrire autour de ce mot « nation » ?
En résumé, c'est rompre avec l'évidence qu'on a. Quand on dit « nation », tout le monde se dit « on sait ce que c'est ». Donc montrer que c'est pas évident, que ça n'a pas toujours existé. Et en même temps, essayer de désamorcer cet objet qui est un objet d'investissement passionnel assez fort, et on le voit en ce moment, de montrer que, voilà, d'essayer de le vider de ça, de revenir sur la figure, et de montrer dans quoi ça peut être un support de radicalisation très dangereuse, et en même temps, en quoi il y a quelque chose d'intéressant, enfin, et que c'est pas tellement, il faut rompre avec la nation, parce qu'on pourrait avoir exactement le même genre de radicalisation avec d'autres idées et d'autres constructions, mais au contraire, profiter du fait que ce soit un objet d'investissement affectif et passionnel très fort, et en désamorçant de dire bon, voilà, il faut gardons nos distances et faisons avec ça, mais en gardant une espèce de retenue qu'on peut obtenir grâce au détour par l'histoire, parce que les sciences sociales plus généralement nous apportent.
Ok, d'accord, mais alors c'est quoi la nation?
C'est pas l'État, c'est pas la patrie, je pense que c'est important de revenir sur ça. La nation, c'est vraiment l'idée d'une communauté. La patrie, c'est un rapport affectif au pays, mais ça reste, ça inclut pas tellement les autres, en fait. C'est plus soi, de soi à son pays. Et puis l'État, ben, c'est la structure politique et administrative qui organise tout ça et qui a le pouvoir, disons. La nation, c'est pris entre deux choses. Donc c'est cette idée de communauté d'appartenance, avec aussi, comme il y a quand même un lien, c'est aussi la communauté politique. Donc c'est aussi, et c'est comme ça qu'il y a le lien avec vraiment la nationalité et la citoyenneté, c'est, voilà, comme on fait partie d'une même communauté politique, quel droit on a par cette appartenance. Donc il y a deux couches, disons. Le côté citoyenneté et droit politique, et puis l'idée d'une communauté d'appartenance.
La nation, on va le voir tout au long de cette émission, c'est un terme mouvant. Mais c'est intéressant de voir à quel moment on s'est mis à employer ce terme dans son sens moderne d'une communauté politique et pourquoi on se met à l'utiliser.
Il y a un moment important qui est le moment de la Révolution française, avec le texte de la BCIS sur qu'est-ce que le tiers-État, où en fait, la nation à ce moment-là, confondu avec le tiers-État, devient le lieu de transformation politique et le sujet politique. Avant, on est dans un moment où c'est une société d'ordre avec des ordres privilégiés et le tiers-État, et le tiers-État qui à la fois est soumis à un régime d'imposition féroce et en même temps n'a pas de droit politique. C'est le plus gros de la population à l'époque de l'Ancien Régime. Ça va de la bourgeoisie aux paysans les plus pauvres. Et c'est le groupe qui n'a quasiment pas de droit politique, mais qui est le plus imposé. Et il y a les deux ordres privilégiés, en revanche, qui sont la noblesse et le clergé, qui, eux, ne travaillent pas, ne sont pas soumis à l'imposition et ont un pouvoir politique. C'est ça aussi, c'est que le tiers-État, c'est les gens qui travaillent. Et c'est ça qui est très important à partir du moment, dans le texte de Seyès, c'est que la nation, c'est les gens qui travaillent. C'est-à-dire qu'on a du droit politique parce qu'on travaille. Et c'est la grande révolution politique, en fait, de dire ce qui forme la nation, c'est aussi les gens qui travaillent, qui apportent aussi une richesse à la communauté. Et parce que ces personnes font ça, elles ont un droit politique. Et je pense que là, on voit aussi comment au départ, vraiment, chez les révolutionnaires, il y a l'idée, on rompt avec la société d'ordre. On va bien sûr se méfier de ceux qui perdent des privilèges, parce qu'on sait bien qu'ils ne vont pas les perdre comme ça, sans rien faire. Mais en même temps, on parle d'une idée de communauté politique. Et ce qui est très intéressant à l'époque de la Révolution française, même si ça ne va pas durer longtemps, on ne parle pas du tout de nationalité. Ce qui fait la communauté politique, c'est la citoyenneté. Donc, l'exercice des droits politiques. On s'en fiche de l'origine, de l'appartenance, etc. Si on adhère au projet révolutionnaire, on est citoyen. Donc, je pense que l'idée de nation, à ce moment-là, il y a vraiment... Il faudrait voir aussi avec des historiens spécialistes de cette période, mais il me semble comme ça que c'est aussi l'idée de construire une communauté politique, justement, qui ne soit pas divisée, comme elle était la société de l'Ancien Régime, et de souligner très fortement l'idée que c'est par l'adhésion au projet politique qu'on est membre de cette communauté. Et ce qui est intéressant à l'époque, alors ça dure malheureusement pas très longtemps, parce qu'après, on voit toutes les tensions qui traversent à la fois les révolutionnaires qui sont pas d'accord entre eux, puis les conditions dans lesquelles se passe la révolution. Il y a très vite une guerre civile, une guerre extérieure, donc en fait, d'un seul coup, tous les réflexes de protection sont réactivés. Mais dans les premiers moments, il y a, quand la Révolution française a lieu, puis c'est la dernière des grandes révolutions du XVIIIe qui transforme le système politique. À la fin du XVIIe, la Révolution en britannique, puis il y a la Révolution qui donne naissance aux États-Unis au XVIIIe siècle, et donc il y a la Révolution française. Et donc quand ça se passe, tous ces libéraux au sens politique, pour parler comme à l'époque, s'enflamment en fait et s'enthousiasment pour cette transformation, et certains d'entre eux viennent pour appuyer le projet révolutionnaire en France. Et donc, certains d'entre eux vont devenir députés, tout en étant britanniques ou américains, ou même prussiens, si on pense à Anna Karsis Klutz, qui était un baron prussien qui arrive dès 1789, qui est complètement francophile, on pourrait presque dire internationaliste avant l'heure, et qui arrive tout de suite, et qui, voilà, et l'un est député du Pas-de-Calais, et l'autre député de l'Oise, vraiment dans les premiers temps de la Révolution. Et ils ne changent pas de nationalité. Mais comme ils adhèrent, ils sont citoyens.
Passionnant. C'était par l'adhésion au projet politique qu'on était membre de la nation. On n'imagine pas, des fois, que deux siècles en arrière, il se passait des choses plus progressistes qu'aujourd'hui. En fait, le nationalisme aurait pu rester un truc plutôt chouette. Mais bon, évidemment, c'était trop simple, trop beau pour durer.
Donc très vite, il y a quand même des conflits qui apparaissent, et notamment la contre-révolution qui se met en marche. Donc très vite, toutes les formes de suspicion vis-à-vis de l'étranger, qui va être incarnée par les Anglais, puisqu'en départ, la Grande-Bretagne accueille avec bienveillance la Révolution française, mais à partir du moment où il y a la fuite par Varennes, puis qu'on guillotine le roi, le royaume change d'attitude et va organiser les armées contre-révolutionnaires, en fait. Donc, les Anglais, c'est un peu les... Il y a un petit historique. Donc, très vite, ils vont incarner eux-mêmes la figure du traître. On va dire que c'est les ennemis du genre humain, etc. Et donc, ça réactive... Alors, c'est intéressant parce que c'est pas encore la question de l'origine, comme on peut le dire aujourd'hui, mais c'est quand même l'idée de l'inscription et de l'ancrage. Et donc, en fait, on va commencer à demander aux étrangers des garanties, ou au contraire de se faire enregistrer aussi pour être protégé des attaques qu'ils peuvent vivre, qu'ils peuvent subir. Voilà, on va commencer à avoir besoin de garanties qui disent un ancrage et donc une appartenance. On se remet à avoir une suspicion vis-à-vis des étrangers, qui sont un peu les vagabonds, un peu les brigands, un peu les traîtres. Enfin, c'est ça les figures à l'époque auxquelles on associe la figure de l'étranger.
Ah, l'étranger, ce fameux étranger. L'occasion de vous renvoyer à l'émission dans laquelle j'en ai discuté avec Karine Parot, qui a écrit comment s'est construit au fil de l'histoire cette notion d'étranger, dans la même collection d'ailleurs que Nation chez Anna Moza. Mais revenons donc à Sarah Mazouz. Ce qui est, ce qui fait la nation varie donc au gré des changements politiques, des intérêts des uns ou des autres, des peurs aussi beaucoup. Bref, la nation dépend du moment.
Oui, et c'est surtout que c'est une nation, c'est une notion faite de paradoxes. C'est un peu l'idée de l'expression d'Olympe de Gouges. Et je dis, c'est une notion qui n'a que des paradoxes à offrir. En effet, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on pense, on sait tous ce que c'est, on a tous une nation, à part quand on est apatride. Bon, donc voilà, en fait, ça paraît très très clair. Et en fait, ça ne l'est pas, et c'est en plus quelque chose qui est tout le temps pris en tiraillement, en fait, entre des aspirations contradictoires. Et on le voit, je trouve que ce que je viens d'expliquer un peu sur le moment révolutionnaire montre ça. On aspire à une espèce de communauté politique où ce qui importe, c'est juste le fait de s'engager dans un projet politique particulier. Et puis, on est rattrapé par des trucs qui ont à voir avec l'ancrage, l'appartenance, l'enracinement, eux, nous, etc. Et je pense, en fait, que c'est aussi ça qui fait que c'est vain de penser qu'on peut construire un projet politique progressiste sur le nationalisme. Parce qu'en fait, on est toujours rattrapé par des choses où ça va exclure. Voilà, il y a toujours, au bout du compte, un geste de délimitation qui fait que, voilà, qui fait partie, qui fait pas partie, qui est avec nous, qui est pas avec nous, qui a des droits, qui a pas de droits.
Et oui, c'est pas gagné, hein. Le nationalisme, c'est l'exclusion. L'occasion de rappeler qu'à partir du moment où vous basez des politiques sur l'exclusion de l'autre, et que vous aimez ça, eh bien, pensez bien qu'un jour, ce sera peut-être vous qu'on exclura.
Les révolutionnaires, quand ils disent, en gros, la nation, c'est la citoyenneté, eh ben, ils y arrivent pas. Et en fait, ça montre un truc qui est qu'au derrière, dans l'idée de nation, il y a ce que je disais au tout début, il y a l'idée de communauté d'appartenance. Et ça, ça veut dire, voilà, se dire qu'on fait partie d'une même communauté avec des gens qu'on va jamais voir, qu'on a très peu de chances de croiser. Voilà, puis on va se mettre à se dire, ben oui, je suis prêt à mourir pour la nation en m'engageant, voilà. Donc il y a une espèce de communauté imaginée, et c'est pour ça que Benedict Anderson, qui est un anthropologue britannique et irlandais, appelle ça, voilà, les communautés imaginées. Et lui, il travaille... Alors à la fois, lui, son parcours est hyper intéressant, parce que je pense qu'il a justement un parcours biographique qui le met un peu à côté des évidences de la nation, parce que donc il est britannique et irlandais. Son père était administrateur colonial, donc il naît en Inde, il bouge, il revient au Royaume-Uni, il repart aux États-Unis au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il revient, donc à chaque fois en plus il raconte qu'ils n'ont jamais le bon accent. Donc voilà, tout. Puis après lui, donc il devient anthropologue, il travaille sur l'Asie du Sud-Est, bref. Lui voit bien que tout ça est un peu une construction. Et il s'intéresse à la même manière dont ça apparaît et l'essor que ça a pris. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, il montre vraiment comment, là aussi, c'est le produit d'une configuration historique qu'on va retrouver dans plusieurs moments, qui est comment petit à petit, des gens se disent, on fait communauté ensemble, même sans jamais se croiser. Et donc lui, il montre que le laboratoire de tout ça, c'est le XVIIIe siècle, mais pas la Révolution française, c'est les provinces espagnoles d'Amérique, et aussi en partie les provinces anglaises d'Amérique du Nord. Et il dit, ben voilà, en fait, c'est très étonnant, ça. Vous avez un empire espagnol qui vit tranquillement pendant 3 siècles, et à un moment, il y a des populations, ce qu'on appelle les créoles, qui dans ce contexte-là sont des populations européennes, qui parlent espagnol, qui se définissent comme blanches, etc., mais qui vont dire, ben non, on est plutôt... les uns chiliens, les autres péruviens, les autres plus tardivement argentins, etc. Ou colombiens, enfin bref. Et ils se disent, ben voilà, nous on est une nation et on va s'émanciper de l'Espagne, et on va la laisser à sa péninsule ibérique. Qu'est-ce qui se passe pour que ce, se passe cette ait lieu cette transformation dans la manière de percevoir les choses. Parce que ce qu'il montre aussi, c'est vraiment une transformation dans la perception, aussi bien dans le lien au territoire, au temps et l'investissement affectif. Donc c'est à la fois quelque chose qui est d'ordre politique, et mais qui a aussi une espèce de vie émotionnelle, la nation. Et donc lui, il montre à la fois des logiques, qui apparaissent sur une échelle plus grande, de manière macro, pourrait-on dire. Donc les transformations du capitalisme, ce qu'il appelle lui le capitalisme de l'imprimerie et le développement de la presse, qui fait que d'un seul coup, il y a aussi des journaux qui apparaissent localement dans ces provinces, donc qui créent en acte la communauté. On vous donne des informations du Chili ou de ce qui va devenir le Mexique. Donc on ne dépend plus de Madrid de ce point de vue-là. Il y a des choses dans le rapport au temps, notamment qui est aussi dû au fait qu'il y a un recul de la religion. Donc on essaye. Et il montre aussi comment cette création de la communauté nationale et l'importance que ça prend, ça vient prendre le relais, en fait, de la communauté religieuse. Donc il y a ça. Et puis après, plus concrètement, il montre comment dans l'organisation, et ça c'est très important parce qu'on va le retrouver dans d'autres contextes, dans l'organisation justement de la domination qui est quand même une domination coloniale, même si c'est entre des populations dites créoles et une métropole européenne, c'est l'organisation de la formation et des carrières administratives de ces élites créoles dans les provinces espagnoles, c'est qu'il y a un régime d'inégalité par rapport aux métropolitains. Donc, eux, par exemple, étaient soumis à des nominations qui les cantonnaient dans leur province. Ils circulaient pas dans l'Empire où ils voulaient, et puis ils se retrouvaient pas en métropole. Donc, bien sûr que du point de vue, sans doute, de Madrid, c'était pour imposer, justement, sa puissance, puis un truc de hiérarchisation entre... Mais ça a concouru à se penser comme, si moi je peux pas aller faire mon petit une partie de ma carrière en Espagne, ben du coup les Espagnols sont pas colombiens ou chiliens ou voilà. Et donc ça a produit aussi un élément de dissociation qui naît d'un traitement inégalitaire en fait.
Lay, 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 lay
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Très intéressant ce que raconte Sarah Mazouz. La nation, c'est plutôt une histoire d'égalité, d'inégalité. La nation ethnique, homogène, pure, tout ça, c'est un fantasme de facho. Non, les nations se font et se défont en fonction d'enjeux de pouvoir et puis des avancées techniques et de la science. La géographie remodèle les nations. L'apparition de l'imprimerie aussi. Plus on a des outils pour délimiter des concours de nations, et ben plus on va le faire. On va piocher dans tout et n'importe quoi pour définir une nation en fonction ici de la langue, là, du lieu, de la religion, voilà. Mais ma question, c'est... Est-ce que la construction de ces nations implique toujours un intérêt caché des uns ou des autres ?
Alors, il n'y a pas toujours cette intentionnalité. En fait, ça dépend. Là, peut-être que c'est aussi l'image qu'on a aujourd'hui des nationalismes et de l'instrumentalisation de l'idée de nation. Mais initialement, en fait, c'est aussi un processus historique, c'est-à-dire qu'à un moment, ça émerge. Et ce qu'il faut retenir, et là, c'est plutôt en suivant... ce qui se passe dans les empires qui sont sur le continent européen, donc l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, l'Empire russe, les gens qui revendiquent leur existence comme nation, c'est plutôt des populations marginalisées de ces empires. C'est pas les gens qui ont le pouvoir. C'est un contre-pouvoir. Et au départ, c'est même une aspiration démocratique contre... ces régimes dynastiques avec des gens qui viennent. Alors, vous avez la maison de Russie qui est tenue en fait par une branche d'une maison royale allemande. Voilà, l'Empire austro-hongrois, c'est des Autrichiens, mais voilà, qui règnent sur toute l'Europe centrale. Les Ottomans, donc c'est des Turcs et voilà, les Grecs, enfin, et qui vont jusqu'à l'ex-Yougoslavie. Donc, c'est ce truc aussi de dire, mais qui sont ces gens en fait ? Et alors, là où après, il y a vraiment. Un processus de création et même d'invention, c'est tout le moment où chaque petit groupe marginalisé, discriminé, donc soumis à des formes d'inégalité dans ces structures impériales, vont essayer de retrouver une mythologie propre, une culture propre, mettre en avant des langues, etc. Mais là où on voit aussi que c'est pas toujours un truc intentionnel, je reviens à cette histoire de capitalisme de l'imprimerie. Un des éléments importants, et ce qu'on voit beaucoup dans ce qui se passe justement dans l'Europe, dans les empires européens au 19e siècle, c'est le rôle des dictionnaires bilingues. À partir du moment où on crée des dictionnaires bilingues, on met sur le même plan d'importance l'allemand et le tchèque, le grec et le turc. Et voilà. Et donc, ça crée un intérêt d'un seul coup pour plein de langues qui étaient pensées comme des dialectes. Et ça amène les groupes qui parlent cette langue à se penser comme une communauté digne d'être un État, une communauté politique. Et après, c'est aussi ça qui fait que, dans beaucoup d'esprits, et ça a aussi été peut-être une des particularités de ce processus on a vu là le schéma général, mais par exemple si on regarde ce qui s'est passé dans l'Empire austro-hongrois ou dans l'Empire ottoman, il y a vraiment eu l'idée de revendiquer, ou dans l'Empire russe a fortiori, de revendiquer une langue, de dire une nation, une langue. Et d'ailleurs, ça a produit des espèces de contre-attaques, notamment dans l'Empire russe, qui est un peu le modèle, où il y a après des vagues de russification très fortes pour contrer ces forces centrifuges où les uns parlent ukrainien, les autres parlent polonais, etc. etc. Voilà, et après, ça peut aussi s'agripper à des questions religieuses. Je pense que, par exemple, dans le cas des Grecs, il y a aussi le fait d'être sous domination ottomane, il y a aussi le fait de se dire, nous, on est chrétiens orthodoxes. Voilà, et ça réanime ça aussi, quoi.
L'idée de nation serait venue de populations marginalisées et d'une volonté démocratique. Mais c'est très bien ça, revenons à cela. À quoi ça tient quand même, parfois un dictionnaire bilingue. Je suis sûre que vous n'imaginiez pas tout ça avant d'écouter Sarah Mazouz. Donc la nation, c'est un concept assez flou. Par contre, le droit du sol et la naturalisation dépendent de la nationalité et donc de la nation. Ce qui rend la notion de nation très importante, du coup. Et c'est une question surtout très politique.
En fait, ces politiques de nationalité, elles mettent en acte la conception qui préside à la nation selon les pays. Parce que tous les pays, à la fois tout le monde se pense comme une nation, mais les conceptions ne sont pas les mêmes. Même si par ailleurs, le nationalisme est une réussite d'importation, et ça suit toujours un peu les mêmes schémas, mais chacun dit, voilà, mon petit particularisme à moi, il est vraiment très particulier. Bon, mais donc, pour revenir aux politiques de nationalité, c'est ça qui est important, c'est qu'elles disent, elles mettent en acte, elles manifestent la manière dont on conçoit le fait de faire nation, et d'incorporer à la nation. Et c'est pour ça qu'il y a des pays où il y a le droit du sol et d'autres où il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on se crispe sur ces politiques dès qu'on commence à se dire, dès qu'il y a des discours nationalistes. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est par ça, soit si on est dans une vision très d'une pureté de la nation, et on voit bien vers quoi ça mène, que la menace vient de là, de tous ces étrangers qu'on incorpore, soit ça vient aussi mettre en acte l'idée que, par exemple, si on pense, même si ça a beaucoup changé, dans le cas allemand, toute cette idée de la nation allemande qui a une ascendance germanique, etc., pendant longtemps, ça n'est pas que ça, mais ça a permis de justifier sur le plan, disons, un peu de la communication politique, le fait d'avoir un droit du sang strict, même si en fait, si on fouille dans l'histoire allemande, imposer au moment de l'unification allemande le droit du sang, c'était aussi contrecarrer une tradition liée au domicile, à la résidence, dans les différents Länder, donc les différents États qui au départ étaient des États indépendants et qu'on a unifiés. Donc pour contrer aussi leur propre force centrifuge, on s'est dit, là, on va couper tout ça et on va faire juste un truc de droit du sang. Donc voilà, c'est aussi toujours les contextes et les configurations qui amènent à imposer tel ou tel choix. C'est une réalité mouvante. Ce qui est dangereux, c'est de vouloir la durcir, cette réalité. Et c'est là où il y a à chaque fois une menace. C'est quand vous avez des discours qui vont commencer à dire « Ah oui, alors la nation, c'est ça, l'identité nationale, c'est ça, ça a toujours été ça, de tout temps, ça n'a jamais bougé, nos ancêtres les Gaulois, ou je ne sais quoi. » Donc là, c'est là que c'est dangereux.
En fait, c'est quand on la rétrécit.
C'est quand on la rétrécit et qu'on pense qu'elle est rigide. Alors qu'en fait, toute l'histoire, d'abord c'est une création, donc on n'a pas toujours eu des nations, il y a eu des empires, il y a eu d'autres manières de s'identifier, voilà. Et si on va regarder justement ce moment qui est le moment laboratoire, qui est la fin du 18e et le 19e siècle, on voit comment les gens inventent. Justement, je parlais pour revenir un peu sur cette idée d'identité nationale, quand on regarde ces questions émergent au 19e siècle, notamment dans les empires européens, on y va, chacun essaie de trouver sa petite mythologie, on est prêt à inventer des trucs, on fait même des faux pour dire, voilà, alors on a une princesse, je pense aux Tchèques, on a une princesse de toute éternité qui incarne le peuple tchèque, etc. Hop, on fait pareil chez les Russes, il y a tout un débat sur le chant de la troupe d'Igor, où après même, pendant la guerre, donc ça c'est un truc très important sur la création de l'identité russe. Dans les années 50, il y a un énorme débat entre des linguistes, notamment Jacobson, qui est un linguiste russe exilé aux États-Unis, mais qui lui dit non, ça n'est pas un faux, contre un linguiste français qui dit non, c'est un faux. Mais ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, comme il défend lui l'idée d'une nation russe qui aurait existé, que ça c'est vraiment le texte qui marque ça, etc., alors qu'il est exilé aux États-Unis, il est soutenu par l'Académie soviétique qui voit dans ce texte l'Académie de langue ou de linguistique soviétique, je ne sais plus, qui voit dans ce texte vraiment l'espèce de première guerre patriotique russe qui sera après reprise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin voilà. Donc il y a tout un truc où on voit que tout le monde s'investit à fond pour des choses qui sont créées de toutes pièces, en fait, dans la plupart des cas. Et on pourrait redire ça en prenant plein d'autres contextes. Hein. Aujourd'hui, ce que fait le nationalisme indien avec le yoga, c'est pareil, c'est des créations de toutes pièces, on va retrouver des choses... alors que c'est un peu... Le yoga qu'on pratique, c'est une invention du 19e siècle, en gros, du début du 20e. Donc, voilà. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ça. C'est le fait que c'est une création qui sert, qui est très pratique, qui permet aussi un foisonnement littéraire, plein de supports symboliques. Enfin, voilà, ça crée des opéras, des peintures, c'est super. Mais penser que c'est ça, que c'est de toute éternité, et que ça permet de dire que je suis mieux que les autres, ou que je suis supérieur aux autres, ou qu'il y en a qui font partie et d'autres pas, ben, c'est là que ça devient problématique. C'est parce que je pense que ça, l'appartenance, on peut le voir, même si on regarde au niveau de la famille, ou c'est ce que fait la religion aussi, c'est cette idée d'être ensemble, d'avoir un lien symbolique, un lien réel, un lien de sang, si tant est que ça ait un sens. Donc tout ça, oui, ça vient toucher à des espèces de... ça touche à l'imaginaire. Et voilà, ça marche bien.
Vas-y, viens, toi la fille dans la boîte de nuit, vas-y, viens, fais pas ta Barbie, j'ai besoin d'amour, viens, sors de ta boîte. Sur mon tabouret bourré, je vois des vagues qui veulent m'emporter. Sur mon tabouret où je tangue avec tes jambes, viens me ramasser. Vas-y, viens, emmène-moi sur ton dos. Vas-y, viens, remets-moi à flot. Depuis 36 bières que je t'espère, toi les bobettes ou la galère. 36 brasses que je prends la tension, pauvre affieux dégueulasse. Vas-y, viens, fais pas ta sirène, vas-y, bien, sauve les baleines. Look at me, why don't you, look me when I dance. Wave your arms, why don't you, take me for a dance. Look at me, why don't you, look me when I dance. Wave your arms, why don't you, take me, take me, take me. Sur mon tabouret bourré, prêt à exploser tout en vrac. Sur mon tabouret paumé, ouais, prends-moi comme ton sac. Vas-y, viens, assieds-toi sur ma tête. Vas-y, bien, brûle-moi avec ta cigarette. Depuis 36 ans que je m'entraîne à traîner dans les boîtes. 36 chiennes que je te mate, vite avant que je me craque. Vas-y, viens, sur tes talons hauts de dame. Vas-y, bien, montre-moi comment t'es haut de gamme. Look at me, why don't you, look me when I dance. With your arms, why don't you, take me for a dance. Look at me, why don't you, look me when I dance. With your arms, why don't you, take me, take me, take me. Toi qui sais bouger ton corps, aide-moi l'homme presque mort.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Dans son livre, Sarah Mazouz décrit comment le principe de nation peut être quelque chose de positif quand il se contractualise, par exemple, en traité de paix entre des nations. Mais elle décrit aussi comment ce principe a tendance à se radicaliser, comment sa conception identitaire sert de base à l'exclusion et au repli. Qui utilise ce terme et pourquoi, dans quel but ? C'est à cela qu'il faut s'intéresser.
En fait, à chaque fois qu'il a été utilisé au départ, dans ses revendications, c'est un but dans le but d'une émancipation, d'une indépendance. On le retrouve après dans les indépendances au sein des empires coloniaux, etc. Le problème, c'est que le terme de nation, il permet de maintenir le flou entre une revendication d'égalité et une affirmation d'identité. Et ce qui prend le dessus toujours, c'est l'affirmation identitaire. À partir du moment où on est dans l'affirmation identitaire, on s'assoit sur les revendications d'égalité. En général, il y a la captation du système dont on se plaignait par d'autres qui viennent, eux, brandir l'identité, mais qui se mettent les choses dans les poches, si je puis dire. Et voilà, et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que ça permet, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ce retour du nationalisme, c'est que ça place l'identité au cœur de la question politique et ça permet de faire sortir la question de l'égalité, qui, elle, trace des lignes au sein même de ce qu'on imagine comme étant une communauté d'appartenance, etc. Et ça permet donc, en disant l'identité, de désigner des autres qui seraient, eux, la source du problème. C'est quelque chose qu'avait senti Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre, donc ce texte qu'il écrit au moment de la guerre d'Algérie, alors qu'il a été, lui, très engagé. Il a été ambassadeur du gouvernement provisoire de la République algérienne en Afrique. Il était au comité de rédaction du journal du FLN qui s'appelait El Mujahid, pour sa version française. Donc c'est quelqu'un qui s'est énormément... qui a pensé la question de l'indépendance comme vecteur d'émancipation et qui a senti ce qui pouvait arriver aux indépendances si, alors lui dit c'est les bourgeoisies, les anciennes bourgeoisies colonisées qui vont reprendre le truc et qui vont s'approprier les choses, c'est vrai en partie, mais même quand c'était pas des bourgeoisies, les gens qui se sont appropriés l'État après les indépendances, il y a ce truc de captation d'un système laissé par le pouvoir colonial, alors aussi parce qu'on a fait affaire avec les anciennes puissances coloniales, hein. Bien sûr, c'est pas pour dire que le système colonial était mieux, mais c'est pour dire qu'attention, en fait, l'identité, c'est toujours une arnaque, quand elle est prônée sur le plan politique et comme étant la solution des choses, parce qu'en fait, ça permet à d'autres de se servir. Et ça ne redistribue en rien. Et donc, c'est ça, en fait, c'est ça l'intuition très grande dans ce chapitre des damnés de la Terre qui, si je me souviens bien, s'intitule « Les malheurs de la conscience nationale » ou quelque chose comme ça, où il voit, en fait, de manière prémonitoire, exactement la captation qu'il y a eu des richesses des pays, une fois qu'ils sont devenus indépendants, par un groupe. Alors, bien sûr, c'était des nationaux, là, mais ils ont quand même... continuent à affamer leur peuple et ils ont capté les choses pour eux. Et c'est frappant de le lire alors que c'est écrit, ça paraît en 61 et qu'il y a beaucoup d'indépendances qui ne sont même pas encore... plusieurs pays qui n'ont pas encore acquis leur indépendance. Donc, je prends cet exemple qui est peut-être paroxystique et qui est un modèle, en fait. C'est-à-dire, attention, ce qui compte... La critique qu'il y avait à faire du régime colonial, par exemple, c'est les inégalités et les discriminations que ça produisait. Et bien sûr, la déprise politique pour la majorité de la population dite indigène. Mais c'est pas de dire « il faut parler ma langue » ou « parler... » Bien sûr que l'humiliation coloniale, elle passait par l'humiliation linguistique. Enfin, ça dépend encore. Là, les empires n'ont pas tous fonctionné de la même manière. Mais... Le fond de l'affaire, c'est cette histoire d'égalité ou d'inégalité. Et donc, faire passer ça à la place en disant « Non, non, on retombe dans un truc folklorique qui fait diversion. » Entre-temps, les richesses restent entre la main de quelques-uns. Cette histoire d'arnaque par l'identité, c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. C'est-à-dire, si le nationalisme prolifère et fonctionne... C'est qu'on, ça joue deux choses, c'est-à-dire que donc ça arrange les puissants parce que ça brouille l'idée qu'il y a des inégalités au sein des différentes sociétés. Ça fait aussi donner l'impression aux personnes qui sont démunies, qui sont déclassées à plus d'un titre, sur le plan socio-économique, sur d'autres plans, etc., l'impression qu'ils sont quand même, eux, du côté du manche. et que le problème, c'est pas le fait qu'il y ait des gens qui captent les richesses, c'est leur voisin étranger, leur voisin racisé, les femmes, je ne sais quoi. Voilà. Et donc, là aussi, ça permet de contenir la contestation politique au nom de l'égalité. On fait passer ça et puis on met l'identité qui fait oublier, enfin voilà, qui est...
L'identité, c'est toujours une arnaque. C'est drôlement intéressant hein, quand même ce que raconte Sarah Mazouz. Et écoutez-la encore nous parler de moralisation et du, ou plutôt des droits du sol, parce que ça aussi, c'est en lien direct avec ces histoires de nationalité, bien évidemment.
Une des caractéristiques aussi, mais ça va avec le côté passionnel, hein, c'est qu'on moralise le rapport à la nation. Alors il y a un bon rapport, un mauvais rapport, il y a des gens qui fraudent à la nation. Enfin voilà, il y a tout ce truc... Il y a la générosité de la nation, etc. Tout ça, en fait, il faut dégonfler. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant de revenir sur la question du droit du sol, qui est un droit hyper important, et c'est pas du tout pour dire il faut pas le droit du sol, hein, mais de revenir à l'histoire du droit du sol, ça permet de calmer un peu. Parce que bon, donc en France, quand on introduit le droit du sol, au départ, c'était pas du tout évident que la Troisième République... introduisent en tout cas ce qu'on appelle techniquement le droit du sol simple. Le droit du sol simple, c'est celui qui fait l'objet aujourd'hui des grosses polémiques et des attaques depuis les années 80, en fait, de l'extrême droite et d'une partie de la droite. Le droit du sol simple, c'est quand vous avez des parents étrangers qui, eux, sont nés à l'étranger, qui viennent vivre en France, et vous, vous naissez en France. Donc c'est simple parce que c'est il y a une seule génération née en France. Et donc, depuis la Troisième République, il y avait vous étiez français, ça vous donnait droit et vous étiez officialisé comme français, si je puis dire, au moment de la majorité. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, au 19e siècle, quand cette loi est passée, je vais revenir sur le fait que ça n'allait pas de soi que cette loi passe, ce que vous aviez la démarche que vous aviez à faire, c'était de dire en fait, je ne veux pas être français. Et c'est ça qui a changé après, puisque maintenant, il faut faire établir ses papiers. Donc, cet élément-là, c'était pas évident que ça entre dans le droit républicain, etc. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, d'abord, la première fois où on introduit le droit du sol en France, c'est sous François Ier, donc c'est un truc monarchique. C'est repris par la Révolution française, c'est annulé par Napoléon, et après, il y a ce qu'on appelle le double droit du sol, donc là, c'est quand vos parents sont nés en France et que vous êtes vous-même né en France, là, vous êtes français dès la naissance. Et ça, c'est le Second Empire. Donc, quand au moment de la Troisième République, on parle d'introduire un droit du sol simple, pardon, il y a des gens qui disent, mais non, mais c'est un truc de féodaux, de monarchistes, en plus, c'est encore l'Angleterre. Donc, il y a beaucoup de débats, et même chez des gens qui sont, on dirait aujourd'hui, progressistes, on n'est pas hyper fan du droit du sol. Surtout que l'introduction du droit du sang par Napoléon Ier, ça permettait de faire que la nationalité ait été un droit individuel. Donc, c'est aussi, c'est pas forcément un truc... Le code civil à l'époque napoléonienne est assez rétrograde, mais en fait, ce point-là, c'est aussi quand même donner un droit à l'individu, c'est-à-dire faire que la nationalité, c'est à vous, c'est pas le souverain qui vous donne votre nationalité. Bref, donc il y a un gros débat à l'époque, au moment où de faire passer cette loi en 1889, et ce qui finit par faire triompher le droit du sol, c'est pas un truc de générosité, c'est qu'en fait, à l'époque, les étrangers bénéficient d'un statut hyper intéressant, qui s'appelle l'admission à domicile, qui fait qu'en fait, quand vous êtes étranger, vous avez vos droits civils, c'est-à-dire la succession, etc., qui sont assurés comme pour des Français, mais vous n'êtes pas soumis au service militaire. Donc c'est un peu tout bénef. Vous pouvez faire hériter vos enfants, vous avez une résidence stable, mais vous n'allez pas mourir à la guerre. Et on est quand même à une époque où il y a la rivalité avec la Prusse, il y a des conflits, voilà. Donc, peu d'étrangers deviennent Français. Et en fait, ça crée un énorme problème social où les Français, eux, ont l'impression que leurs fils vont d'abord passer 3 ans ont 3 ans de conscription, et puis par ailleurs, c'est la chair à canon. Et en plus, quand ils ne se font pas tuer sur le front, ils se font doubler par les mecs étrangers qui épousent les meufs avant eux. Donc ça fait un énorme problème, et les Français ont l'impression de vivre, enfin les hommes français ont l'impression de vivre ce qu'ils appelaient à l'époque une inégalité choquante. Donc il faut trouver le moyen de faire que ces étrangers ne restent pas étrangers et deviennent français. Et c'est ça qui finit par faire gagner l'argument en faveur du droit du sol simple. Et il y a aussi un argument lié à la situation en Algérie, qui est déjà à ce moment-là un département français. Et on a peur, il y a beaucoup d'Espagnols qui s'installent aussi en Algérie. Et donc, il y a une espèce de bataille démographique. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'Espagnols, des fois qu'après, l'Espagne viendrait revendiquer l'Algérie, comme l'Italie le fera à un moment avec la Tunisie. Donc, il faut faire que ces Espagnols qui naissent sur un territoire français deviennent... ne reste pas espagnol, soit français. Donc c'est ces deux arguments-là, donc un argument strictement démographique en Algérie et un argument politique ou social, je ne sais pas comment dire, en France métropolitaine, qui vont jouer dans l'introduction de ce droit. Donc au départ, ce n'est pas la générosité de la République. Et après, mais c'est là aussi, vous voyez, où c'est pas toujours un truc d'intentionnalité, il y a un effet non voulu, c'est que de fait, ça a installé l'idée qu'on est français par la socialisation et pas par une ascendance ou par le sang. C'est en allant à l'école et en faisant le service militaire, à l'époque il y avait le service militaire, qu'on devenait français. Et donc ça a très bien croisé après cette idée que voilà, c'est pas une nature l'appartenance à la nation, c'est le produit d'une histoire. Et donc c'est pour ça qu'en France, le droit du sol est devenu un élément vu comme un signe progressiste et comme quelque chose qui a investi par la gauche. Mais c'est l'exemple que je donne, c'est pas partout comme ça. Pinochet en a fait un usage pour exclure les enfants d'exilés nés à l'étranger. Et voilà. Et alors, qu'en est-il devenu aujourd'hui du droit du sol ? Donc cette situation installée donc en 1889, elle demeure jusqu'aux années 1980. Et même Vichy, quand il y a une proposition... transformation de la loi sur la nationalité ne touche pas au droit du sol, ce qui fait que d'ailleurs ça plaît pas aux nazis et ils retoquent la proposition de réforme de la loi sur la nationalité à l'époque de Vichy. Mais en fait, le moment, le tournant, c'est les années 80. Pour plein de raisons, il y a d'abord des trucs liés justement aux relations franco-algériennes où c'est l'Algérie qui essaye de récupérer des enfants qui sont français par droit du sol. Donc voilà, ça ouvre, le truc est réglé, le conflit, la crise avec l'Algérie est réglée, mais ça ouvre une brèche dans laquelle va s'embourber l'extrême droite et la droite avec ce truc où on ressort toute la vieille artillerie de l'entre-deux-guerres, des Français de papier, des Français qui ne veulent pas être vraiment français, etc. Et en fait, on voit bien... le droit du sol, ça pose un problème parce que ça permet de transformer en français, là, en fait, majoritairement, des enfants d'anciens colonisés à qui on n'a jamais donné de droit à l'époque où c'était les colonies et qui sont là, citoyens de plein droit. Donc on va trouver plein de manières pour... Et on a un moment entre 93 et 1997-18, le droit du sol simple est suspendu par une loi qui s'appelle la loi Meignery et qui fait que pour les enfants nés en France de parents étrangers nés à l'étranger, eh ben, il faut vraiment faire une procédure qui s'apparente à une demande de nationalité. C'est pas leur naissance en France qui leur donne un droit. Et en 98, quand la gauche plurielle essaye de rétablir un droit du sol, il y a des choses qui ont été mordillées.
Les politiques de nationalité, ça sert à savoir qui fait partie du groupe ou pas, qui appartient à la nation et avec qui on va faire société. Et en fait, ça va permettre de légitimer des traitements inégalitaires. Donc, prudence, sujet délicat, tout comme les poils. Tiens, voilà aussi un sujet plus délicat qu'il n'y paraît.
Alors, les poils, c'est marrant, je suis allée hier chez mon esthéticienne. comment dire, c'est une pratique ça, assez récente. Les poils, je les ai enlevés souvent toute seule. Et je me disais, c'est marrant là, que je me rendais compte que je me mettais malgré tout en short et en jupe, même en n'étant pas bien épilée. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment eu un changement par rapport à ce qui pouvait encore exister il y a quelques années à Paris. Et en fait, moi, j'ai vécu aussi à Berlin. Et je me suis dit, bon, moi, je me suis un peu coulissée avec ça en vivant à Berlin. Mais finalement, voilà, ça arrive à Paris, pour le meilleur.
En encore un mot avant de vous quitter. Quand j'ai demandé à Sarah Mazou si elle voulait ajouter quelque chose, elle m'a dit « Bah quand même, hein, on découvre que Renan est cool ». Alors si vous êtes comme moi et que vous n'aviez jamais entendu parler de ce type, eh bien sachez qu'Ernest Renan était écrivain, philosophe, et Sarah trouve que son livre de 1882 « Qu'est-ce qu'une nation ?» est hyper intéressant. Elle le cite dans son livre et elle parle de sa notion de nation qui est très clairvoyante, surtout pour l'époque. Renan formule l'idée que la nation repose sur un passé commun et une volonté d'association. Il dit, je cite, « Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. » Voilà. Sur ce, à bientôt dans la grande nation des radios associatives en FM. Et puis d'ici là, retrouvez Du Poil Sous les Bras en podcast, bien sûr.